Salma VI était la nymphe protectrice de cet étang. Et voici. Les heures de l'été foulaient le sol des durs jardins, et Salma VI, les bras noués sur les yeux, dormait sous le torrentiel azur, et les songes de Salma VI étaient formés par tout ce qui se reflétait dans les eaux de son étang. Les roseaux, les arbres, le ciel, souvent déchirés par la noire fuite d'un oiseau.
Or une douce image passa dans les songes de Salma VI et l'éveilla. Elle vit, sur la rive, un adolescent qui portait le vaste chapeau des voyageurs. Il s'appelait Hermaphrodite, à cause d'Hermès, son père, et d'Aphrodite, sa mère. L'héritier du dieu qui porte aux pieds des ailes battantes était reconnaissable au caractère dansant de sa démarche. De sa mère, il avait reçu le don d'inspirer l'amour. Salma VI tressaillit dans sa chair avide et devint curieuse de poser un masque de désir sur cet adorable visage.
Cher jeune homme, si tu as une fiancée, accorde-moi pourtant derrière ces arbres un plaisir clandestin. Si tu n'en as pas, puissais-je être moi-même cette fiancée et faire l'amour avec toi pendant toute la vie.
Après avoir dit, elle entoura de ses bras le cou d'Hermaphrodite et d'une langue mi-sortie chercha des lèvres qui se dérobaient. Il était ignorant des choses de l'amour et le discours l'importuna autant que les caresses.
Laisse-moi. Les filles m'exaspèrent, et toi plus que tout autre.
Alors Salma VI finit d'abandonner les lieux, puis elle revint sur ses pas et courut se cacher derrière un arbre.
Hermaphrodite, se croyant seul, tournait de ci de là, ramassant des scarabées, arrachait des herbes, lançait des cailloux, faisait mille jeux. Soudain, il s'approche de l'étang. Il trempe son pied depuis l'orteil jusqu'au talon et tout de suite, séduit par la fraîcheur des eaux, il veut se baigner, se déshabille et livre au regard de la nymphe son beau corps semblable à un tirse.
Salma VI meurt de désir derrière son arbre. Soudain, ivre d'un vin furieux, elle bondit hors de sa cachette, tombe aux genoux d'Hermaphrodite, embrasse étroitement ses jarrets et brûle de se désaltérer à la plus belle grappe du monde.
Le jeune homme, effrayé, la repousse, non sans effort. Elle tombe à la renverse. Lui, légèrement, s'élance dans les eaux diaphanes.
Victoire ! Il est à moi maintenant.
Salma VI se précipite à son tour dans l'étang, où le corps d'Hermaphrodite brille à travers l'onde transparente comme une statuette d'ivoire sous un cristal protecteur.
Lorsqu'un serpent est emporté dans les airs par le roi des oiseaux, il replie étroitement sa queue autour des grandes ailes qui se referment. L'aigle tombe avec le reptile et le mélange de leurs corps s'écrase pesamment sur le sol. Telle, la nymphe paralyse le jeune homme dans sa nage, s'enlace à tous ses membres et le fait couler avec elle au fond de ses demeures.
Maintenant, il ne se débat plus. Ce n'est pas en vain que la nymphe n'a cessé de l'échauffer par ses embrassements. Elle devient folle de joie. Sa tête se renverse en arrière.
Dieu, faites que désormais rien ne me sépare de lui, ni lui de moi.
Aussitôt, sa prière est exaucée. Comme deux métaux en fusion, leurs chairs s'unissent et se confondent. Salma VI et Hermaphrodite ne forment plus qu'un seul corps.
Quel nom faut-il donner à cet être ambigu ? Il ne peut être rangé ni parmi les hommes, ni parmi les femmes, et possède les trésors de l'un et l'autre sexe.
Ô mon père, ô ma mère, voyez votre singulier enfant. Ah, pour le consoler, daignez lui accorder cette grâce. Que tout homme, après s'être baigné dans cet étang, devienne sans vigueur et la risée d'amour.